en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Je voudrais, Madame le Ministre, vous remercier de votre présence et vous dire au nom de notre Académie des Beaux-Arts tout le plaisir que nous avons à vous recevoir et à faire de cette séance ordinaire une séance extraordinaire. Nous sommes impatients de vous entendre. Vous avez choisi comme thème l'art et la nature, art et nature. Voici un thème qui nous est cher ici à l'Académie des Beaux-Arts, puisque l'homme et l'artiste qui est en lui entretient un dialogue constant depuis des millions d'années avec la nature, et cela a commencé avec la grotte Chauvet jusqu'à nos jours. Ça a pris des formes et des intensités différentes en fonction des époques, mais en tout cas, ce thème est passionnant et merci de l'avoir choisi. Je vais céder la parole à notre perpétuel, notre jeune et récent secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Gérard, afin de vous accueillir.
Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, cher Ségolène Royal, d'abord un grand remerciement d'avoir donné suite à cette proposition que je vous avais faite il y a 2 mois. Vous savez, souvent, quand on rencontre des personnages importants et qu'on leur propose quelque chose comme ça, ils vous disent un oui de courtoisie, et puis malheureusement, les choses après ne se concrétisent pas. Et j'avais tout de suite compris dans la façon dont votre œil pétillait que l'idée vous intéressait. Alors, si on était dans une situation normale, je vous dirais que nous sommes heureux de recevoir Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat. J'évoquerai une carrière que finalement tout le monde connaît et admire, mais je dois vous avouer que ce qui j'ai trouvé passionnant, c'est que à la fois, il est important que notre Académie renoue des liens forts avec les grands responsables, avec bien sûr des grands responsables politiques de haut niveau, mais vous êtes sincèrement, pour moi, je crois pouvoir dire pour nous, tout à fait au-delà de la politique. Ça ne vous empêche pas d'être une femme engagée, mais on a bien compris que maintenant vous êtes devant des problématiques planétaires. On espère d'ailleurs tous vivement que dans des échéances prochaines, vous vous retrouverez dans des grandes responsabilités d'organisation internationale. Et puis, vous êtes un personnage totalement atypique. Vous avez su créer, à des moments très importants de notre histoire, y compris lors d'une campagne présidentielle il y a une dizaine d'années, plus qu'un enthousiasme, un véritable élan populaire. Je crois que ça tient à votre personnalité, à votre ouverture d'esprit, à une qualité d'écoute qui est tout à fait exceptionnelle et qui fait que, bien, on a envie de vous parler, on a envie de vous entendre et on sait que lorsqu'on vous parle, vous écoutez. Je trouve qu'en plus, vous avez des choix en tant qu'auteur, cette fois-là, très touchants. J'ai vu que vous aviez ce livre « Ma plus belle histoire, c'est vous », qui est une belle façon de parler. Vous avez un livre qui, je crois, sort demain, m'a dit votre cabinet, qui est le Manifeste pour une justice climatique, ce qui touche tout le monde ici. Et puis, enfin, une dernière chose, c'est que vous semblez avoir un petit faible pour nous, car en l'espace de même pas 2 mois, vous avez honoré notre cher Sébastien Salgado, qui est là, Jacques Perrin, qui vous envoie 1000 bonnes amitiés, qui est aux États-Unis, et le globe-trotteur Yann Arthus Bertrand, qui lui-même est encore plus loin. Alors, en notre nom à tous, je tiens vraiment d'abord à vous remercier, vous dire en plus qu'on va vous écouter avec un grand intérêt et vous rassurer tout de suite sur une chose, c'est que les questions sont des questions de partage, c'est un échange et vous êtes ici devant des gens qui sont à l'écoute et qui n'ont qu'une envie, c'est que les sujets importants de notre société puissent avancer grâce à vous, mais aussi grâce finalement à l'extraordinaire variété de compétences qu'il y a en face de vous, dans toutes les disciplines qui sont ici représentées et qui peuvent, je crois, être d'une vraie aide par rapport à ceux qui ont à prendre des décisions qui vont ensuite, ma foi, avoir une influence pendant des années et des années sur notre vie à tous. Alors, encore une fois, notre nom à tous, mille merci. Je vous souhaite une belle intervention et je vous cède la parole avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, cher Patrick de Carolis, Monsieur le Secrétaire perpétuel, cher Laurent Petit-Girard, Mesdames et Messieurs les académiciennes et académiciens. Mesdames et Messieurs, d'abord, laissez-moi vous remercier pour votre invitation et de me consacrer cette séance exceptionnelle. Je suis très honorée de me retrouver devant vous pour vous parler d'art et de nature, d'art et de climat. Et je voudrais vous dire tout d'abord que dans le combat climatique que la France a mené et a réussi avec la COP21 et avec la COP et avec l'accord de Paris sur le climat, la COP21 que j'ai eu l'honneur de présider, eh bien j'ai observé que le message des artistes a pris une place importante et je voudrais vous dire aujourd'hui que cette place ne demande qu'à grandir. Alors bien sûr, dans le champ de la connaissance et du climat, ce sont d'abord les scientifiques qui se sont mobilisés. D'abord les climatologues, les glaciologues, les écologues, les biologistes, puis ensuite les philosophes, les historiens, les anthropologues, les sociologues, les économistes et bien d'autres encore, parce que toutes les disciplines sont désormais de la partie. Et nous leur devons les travaux scientifiques, notamment les travaux du GIEC, qui nous ont permis de prendre la mesure la plus exacte de l'impact des activités humaines sur le climat, sur les menaces qui pèsent sur la nature et sur le recul de la biodiversité, afin de nous aider à mieux anticiper ce qui risque de se passer si nous n'agissons pas ensemble rapidement. Mais les artistes, les plasticiens, les écrivains, les cinéastes, les créateurs de toutes les disciplines, je dirais même les musiciens, se sont également emparés de ces sujets et souvent avec un temps d'avance. Ils ont d'ailleurs été nombreux à s'impliquer dans le cadre de la préparation du sommet de Paris, dont la dimension artistique et culturelle a été dès le début à mes yeux essentielle, et à joindre leur voix à toutes celles de la société civile qui se sont exprimées haut et fort à cette occasion. Car ce qui s'est joué en décembre 2015 ne devait pas rester l'affaire des négociateurs spécialistes et des gouvernements, mais bel et bien de tous les citoyens. Et cette mobilisation des arts est une chose précieuse et heureuse, car si la rationalité scientifique est nécessaire pour comprendre la nécessité de remettre radicalement en cause nos façons de voir et de faire, eh bien sans l'imaginaire, sans l'émotion, qui sont les domaines de l'art, la raison est impuissante à rendre désirable cet autre monde possible dont l'art permet une approche sensible. C'est Wim Wenders qui disait que pour changer le monde, et c'est bien l'objectif de la conférence de Paris sur le climat, nous devons réussir à changer le monde. Il ajoutait, il faut changer le regard que nous portons sur le monde. Et donc pour pouvoir changer le regard sur le monde, il faut d'abord le représenter. Car l'esthétique n'est pas une conséquence de la politique. Représenter le monde, cela crée un sens commun qui mobilise, qui emporte, qui agrège les énergies. C'est un début, c'est une ouverture, ce n'est pas une conclusion. Et l'art imite la nature, disaient Aristote et les Grecs. C'était signifier avec sagesse que l'esprit humain avait un enclos, une mesure, une cadence, celle des limites de la création des dieux. Et rien n'était plus beau à leurs yeux qu'une mimésis, la doublure, par l'art, de la perfection de la nature. Kant, à travers les notions de sublime, indique que rien ne peut être plus grand que l'esprit humain. Et ce que ce dernier aime éprouver dans le vertige des glaciers, des abysses ou des montagnes, c'est son propre infini, celui de la raison humaine. Et au final, les esprits des Lumières penchèrent pour un renversement de l'axiome. La nature imite l'art. Et cela est vrai de bien des façons, car désormais, on ne peut plus voir les nymphéas sans penser à Monet, ni les tournesols sans songer qu'ils prennent la pose pour stimuler un Van Gogh. Et d'ailleurs, on le voit bien dans la magnifique exposition actuellement au Grand Palais sur les jardins. De Dürer à Cézanne, de Monet à Autoniel, la nature sert de support, de prétexte, de matrice à fondre son imaginaire, à révéler la confusion, la mélancolie d'un esprit, ou au contraire, le pur mystère des formes. Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l'éternité. Cette phrase magnifique de mon ami le paysagiste Gilles Clément, que j'ai inscrite sur le fronton du ministère de l'Environnement. Gilles Clément, qui réussit même à sublimer un jardin d'orties, comme j'ai pu le constater lors de la Biennale des Arts de Mel dans les Deux-Sèvres. Oui, pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et d'éternité. Et souvent, on a le sentiment que devant de tels tableaux, on a le sentiment de contempler un fragment de cosmos, une trace de grandeur, miraculeusement encadrée sur une toile. À ce titre de vecteur de beauté, de messager d'éternité, l'art fait comprendre à chacun ce que nous avons à perdre si on laisse la nature être saccagée, être dévastée, être consommée aux mains de tous les prédateurs auxquels elle se livre. Il fait voir ce qui est en péril, ce que même nos plus grands génies ne peuvent atteindre en termes de perfection. La beauté, c'est-à-dire la nature, pour détourner un mot célèbre de Spinoza. On ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles, mais c'est bien parce qu'on les désire qu'elles sont belles, disait-il. Et ce n'est pas réducteur de le dire, l'art a un rôle latéral d'émerveillement qui est le premier pas vers l'engagement. Oui, la nature est l'objet fétiche, légitime des représentations. C'est flagrant, évidemment, dans l'autre magnifique exposition qui a lieu en ce moment à Paris, au musée d'Orsay, à propos des paysages mystiques. Extraordinaire. De la Bretagne à la Polynésie, par exemple, Gauguin y montre une force tellurique. La splendeur stupéfiante des couleurs et des nuances, mais aussi la douceur et la poésie des hommes et des femmes qui habitent ces paysages. Car l'artiste ne se contente pas de représenter avec fidélité ou avec ressemblance. Et l'on a peu à peu effacé cette conception du tableau comme simple miroir promené le long du chemin, selon la formule de Stendhal. En effet, il faut le dire, quand il représente la nature, l'artiste y cherche toujours quelqu'un. Lui-même, c'est le romantisme et l'expressionnisme. Dieu, bien sûr, et je pense à cette autre œuvre exposée à Orsay, Croire aux étoiles bleues de Georgia O'Keeffe, qui a saisi avec une rare vérité les grands déserts ocres et rouges sur lesquels tombe le crépuscule, la lumière des espaces infinis de l'Amérique, tous ces morceaux de roc et d'horizon qui font songer à cette phrase du philosophe naturaliste Emerson. En présence de la nature, l'homme est traversé par un ravissement absolu malgré ses peines véritables. Mais l'œuvre que j'ai trouvée la plus stupéfiante dans cette exposition d'Orsay, c'est La nuit étoilée de Van Gogh. Extraordinaire. Et qui rejoint d'ailleurs cette belle phrase de l'astrophysicien Hubert Reeves, « L'univers est une machine à faire de la conscience ». Donc je vous invite à aller voir La nuit étoilée de Van Gogh et de penser à cette phrase d'Hubert Reeves, « L'univers est une machine à faire de la conscience » et vous verrez que c'est parfaitement raccord. Alors l'artiste cherche Dieu dans la nature. Il s'y cherche, bien sûr, mais pour de tels tableaux, le sujet secret, le destinataire dissimulé, l'absent pourtant présent, c'est le contemporain, l'autre homme, l'autre femme, le spectateur contemporain. Et loin d'être gratuit, sans être non plus asservi à un but ou à je ne sais quelle fin, l'art, et même l'art qui prend pour sujet la nature, et peut-être surtout l'art prenant pour sujet la nature, cet art travaille pour son époque, travaille pour les hommes et pour les femmes d'aujourd'hui, travaille pour changer les esprits et les mentalités de maintenant. Chacun connaît cette légende grecque de l'invention de la sculpture, et par là de l'art tout entier. L'histoire de la fille du potier Dibutades, qui ne pouvant se résoudre à la perte de son amant, dessina son profil par ombre chinoise au charbon de bois. Puis Dibutades, son père, appliqua de l'argile sur les contours et obtint ainsi un masque humain. L'art et la nature entremêlés pour sauver ce qui est irréparable, la perte et la destruction, tressés ensemble pour restaurer la concorde, le lien entre les générations, la présence au monde, voilà un beau message qui vaut pour le présent, quelques 2000 ans après, et qui vaut pour aujourd'hui, pour le combat climatique. On dit souvent en effet que savoir, c'est pouvoir. C'est vrai, mais pouvoir n'est pas forcément vouloir et pas forcément oser, pas forcément agir. J'en sais quelque chose sur tous ces combats. Et si nous avons jusqu'à un certain point gagné la bataille des idées contre le climato-scepticisme, contre ceux qui nient la responsabilité humaine dans la dérive climatique, il nous reste encore à gagner la bataille de l'action. Nous avons partiellement réussi. Mais pour faire appliquer l'accord de Paris, mais aussi plus largement en accélérant la mise en mouvement de toutes nos sociétés et surtout l'invention de ce nouveau monde qui ne considérera plus la nature, l'eau, la terre comme des biens gratuits. L'information, si précise soit-elle, et le partage des connaissances, si nécessaire soit-il, ne peuvent y suffire. La volonté politique y a sa part, les nombreuses lois et décisions aussi, qui répondent avec loyauté et avec ambition à ce devoir. Mais cela non plus ne suffit pas, car le pouvoir d'agir a besoin aussi du désir d'agir et d'un nouvel espoir qui s'enracine dans une véritable révolution des esprits et des sensibilités. C'est là que l'art nous est indispensable. Non pas en vertu d'une conception étroitement instrumentale qui en ferait un simple adjuvant didactique, mais parce que la beauté de ces narrations émotionnelles, des expériences sensorielles auxquelles les œuvres nous convient, de ces langages capables de rêver et de réveiller le monde, d'en donner à voir les fragilités mais aussi les richesses potentielles, les évolutions possibles, ont le pouvoir de nous faire ressentir combien notre planète est une, combien son climat est un bien commun de l'humanité et quelles énergies latentes nous pouvons activer, non seulement pour regarder autrement notre monde commun, mais aussi pour défricher de nouvelles pistes, pour imaginer de nouveaux équilibres, de nouvelles harmonies, pour prendre pleinement conscience de notre place dans la chaîne du vivant, pour traiter la nature en partenaire et pour éprouver la force de ce qui nous relie les uns aux autres. Bachelard disait que pour qu'une chose existe dans notre âme, il faut qu'elle soit créée poétiquement. Ainsi, les artistes nous alertent et nous éclairent. Proust disait d'ailleurs qu'après Renoir, personne ne pouvait plus voir une femme sans penser à ses peintures. Eh bien, grâce à des photographes, comme d'éminents photographes ici présents, des plasticiens, des sculpteurs et des vidéastes, la réalité du changement climatique ne nous est plus étrangère. Et Thomas Pesquet, qui m'a prêté cette belle photographie pour la couverture du manifeste que vous avez bien voulu évoquer, cette photographie qu'il a prise depuis la station orbitale, depuis l'espace, est d'une certaine façon aussi un témoin artistique de sa planète. Et les artistes, et c'est tout le sens de mon message, nous rassemblent et nous transforment. Leur vraie ressemblance avec la nature, avec ces paysages qu'ils peignent à loisir, c'est qu'avec patience et grandeur, ils dessinent la trame de nos pensées, ils changent notre état d'esprit, ils s'imposent, ils rectifient notre regard. Ils sont donc une source de commun de vie et d'espoir en nous donnant accès à une pensée et à une perception du dérèglement climatique qui mobilise nos imaginaires et qui fortifie notre désir d'avenir. Et je voudrais conclure en citant ces quelques vers d'Édouard Glissant. Le désastre ou la crise sont des opportunités. Ce sont des rigidités et des impossibles qui se voient bousculés, des improbables qui se voient soudainement sculptés de nouvelles clartés, un à présent qui s'ouvre d'emblée, à présent pérennisé une lumière où rupture et brisure ont ouvert des possibles. Je vous remercie.